Ça fait plaisir de vous voir. Enfin, à chaque fois, je vous vois en présidence, mais je vous vois rarement dans cette configuration-là. On va commencer par prier. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans nos vies, Seigneur. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour les circonstances, Seigneur, favorables et défavorables que tu mets dans nos vies afin que nous puissions rester sensibles à ta présence et à ton amour. Dans le nom de Jésus, amen. Donc ce matin, j'ai choisi de vous parler de la faiblesse. On va voir qu'effectivement, c'est une condition sine qua non pour que les choses se passent bien dans nos vies. Noah, tu n'es pas exempt d'école du dimanche. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, on réglera ça en interne. C'est mon fils. Voilà, j'ai intitulé effectivement cet encouragement « La vraie force, c'est de reconnaître sa faiblesse ». Effectivement, il y a 15 jours, Jean-Philippe nous parlait du fait de revenir à Dieu, du fait que effectivement il faut aussi se positionner par rapport à nous-mêmes. Et en y réfléchissant, je me suis intéressé au déclic nécessaire pour revenir à Dieu. Effectivement, reconnaître notre faiblesse et notre besoin de Dieu s'apparente effectivement au fait de revenir à Dieu. Michael Fall à chaque fois nous dit souvent que et il a raison, il nous le rappelle que lors de ses interventions, pardon, Dieu aime prendre des choses qui sont antagonistes, telles que perdre c'est gagner. Et là, on va voir vraiment que la vraie force, c'est de reconnaître notre faiblesse. C'est résumé dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 27. Que tous ceux qui peuvent le prendre, le prennent. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Effectivement, ça peut sembler bizarre, mais c'est la manière de faire de Dieu qui nous interpelle le plus, en tout cas qui m'interpelle le plus. Souvent, on peut considérer dans certaines périodes de nos vies, ou dans ce qui peut nous arriver, on peut considérer ça comme un échec. Très franchement, on peut avoir fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de gaffes dans nos vies, et considérer une bonne partie de nos vies comme une erreur. Notre couple ou nos projets peuvent ne pas avoir fonctionné. Nous avons peut-être perdu un emploi, peut-être avons fait nous pire. On a peut-être menti, triché, trahi ou abandonné. On se considère alors comme une personne sans valeur, comme quelqu'un d'inutilisable. On est souvent pris par ce côté, on se sent tellement coupable qu'on se sent vraiment inutilisable. L'erreur principale, c'est de croire que quand quelque chose se casse dans nos vies, ou quand quelque chose s'efface dans nos vies, quand quelque chose part de nos vies, on apprend à faire sans, au lieu de demander à Dieu de le reconstruire. Amen. Amen. C'est oublier le savoir-faire de Dieu, parce qu'effectivement, il n'a pas choisi des gens forts, il a choisi souvent des gens faibles, des gens qui clochent un peu, en fait, qui sont un peu particuliers. Au regard des héros que j'ai pu trouver dans la Bible, les plus significatifs, il y a effectivement Moïse, de la tribu des Israélites, il était lévite de surcroît, donc fait partie des meilleurs parmi les meilleurs, mais lui, il voulait pas être le leader des Israélites. Il avait effectivement un tic de langage, un tic au niveau de la parole. Beaucoup s'accordent à dire qu'il bégayait. C'est pas forcément évident pour prendre la parole et pour parler à la place de Dieu quand on bégaye. C'est vraiment pas évident. Et lui a clairement renoncé. Il voulait pas être le leader. Il voulait pas parler. Il a même proposé à ce que ce soit son frère qui prenne sa place, parce qu'effectivement, il se sentait pas digne. Il se sentait pas efficace. Il se sentait faible. Il avait un trait de sa personnalité, un trait de sa vie qu'il n'estimait pas suffisamment digne pour pouvoir être utilisé par Dieu. Et quelquefois, c'est souvent le cas quand il nous est demandé de nous positionner dans l'église, au niveau même des services, ou bien on se sent pas concerné du tout, ça peut arriver, ou bien on se dit non, je suis pas assez bien pour faire ça, ou non, j'aurais pas le temps de faire ça, je suis tellement occupé, je suis tellement pris par autre chose que je pourrais pas. Moïse, donc, il était embarrassé au niveau de la parole, mais ça l'a pas empêché de faire la volonté de Dieu et d'être un outil puissant dans les mains de Dieu, d'apporter la voix de Dieu malgré son bégaiement, malgré ses problèmes de langage, afin que, effectivement, ce soit pas lui qui soit glorifié, mais Dieu, est ce qui était dit. David, un homme qui a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, un exemple de foi et de confiance en Dieu, quand on voit dans les écrits d'un Samuel ou de Samuel la vie de David, on s'aperçoit qu'effectivement c'était quelqu'un qui était fondé, qui était enraciné dans la foi. C'était le plus petit de sa fratrie, celui à qui on confiait d'aller garder les bêtes. On aurait pu croire qu'effectivement il n'était pas forcément utile. Il n'avait pas forcément des dons de guerrier. Mais effectivement, il a été utilisé. Mais surtout, quand tout allait bien pour lui, il a commis un péché, c'est de coucher avec Bathsheba, la femme d'un de ses lieutenants, allant jusqu'à faire tuer son mari au combat, Uri. Mais la différence, c'est qu'il a su reconnaître toute sa vie son besoin de Dieu. En se repentant et en se livrant à Dieu pendant tout son règne et toute sa vie. On va voir qu'effectivement, le fait de reconnaître notre faiblesse, c'est ce qui permet à Dieu de commencer à œuvrer dans nos vies. Tant que ce ne sera pas fait, rien ne sera possible. Jonas, encore une fois, envoyé de Dieu pour la repentance du peuple, on a parlé il y a 15 jours, effectivement, il a pris un bateau pour s'enfuir loin de l'appel de Dieu, pour deux mots. On lui demandait de dire deux mots. Repentez-vous. Jean-Philippe nous l'a bien expliqué il y a 15 jours. Pour ces deux mots, repentez-vous, il n'y est pas allé. Il se disait que le peuple, c'était pas utile. En plus, effectivement, le fait d'être le porte-parole, ils allaient certainement s'en prendre à lui. Il allait vers un peuple rebelle. On allait lui demander de, enfin, il allait leur demander de se repentir. Il était persuadé surtout que je pense qu'il le tuerait pour ça. Et comme il était un peu timide et je pense aussi un peu, voilà, il n'avait pas vraiment envie d'y aller. Et il faisait pas partie des gens les plus téméraires. Il a préféré justement prendre un bateau et chercher à s'enfuir. Mais Dieu lui a montré, quand il a accepté sa faiblesse, qu'effectivement il pouvait vraiment être un outil dans les mains de Dieu. Dernier exemple du moins, Pierre. Il a été apôtre et véritable ami de Jésus. Il a été témoin de ses miracles. Après avoir participé au quotidien de Jésus, ça devait quand même être quelque chose, on s'accorde tous à dire qu'effectivement on lit les vérités dans la Bible, mais de vivre au contact de Christ, ça devait vraiment être quelque chose. Et pourtant, après avoir été témoin de tous ces miracles et des circonstances extraordinaires, il a renié Jésus trois fois en peu de temps. Quand on lui a dit « Bon, maintenant tu vas servir d'outil », Comment j'ai été renié trois fois. Et quelquefois dans nos vies, l'erreur, je le disais dès le début, l'erreur qu'on fait tous, c'est quand quelque chose se casse dans nos vies, quand on est déçu par quelque chose, on essaie de faire avec. On essaie de l'incorporer à nos vies et de vivre en boitant, de vivre en clochant, au lieu de demander à Dieu de rebâtir notre foi, au lieu de demander à Dieu de reconstruire notre confiance, pas en nous, mais en lui. Amen. On pourrait analyser d'autres personnalités utilisées par Dieu, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une faiblesse, il y a toujours une particularité qui fait qu'effectivement Dieu n'utilise que des gens qui sont légèrement faibles ou qui ont peut-être une particularité. Afin que personne ne s'enorgueillisse, afin que personne ne puisse dire oui, c'est parce qu'il a toutes les capacités et toutes les compétences qu'il réussit. Non, Moïse bégayait, Pierre a renié Jésus trois fois, Jonas voulait pas y aller. Voilà. Quel encouragement ça doit être pour nous. Et quelquefois, on les prend comme des héros de la foi, mais on se dit que ça ne nous concerne pas. Quelquefois, quand on s'adresse à Dieu, on lui dit ce qu'il veut entendre. Mais on a du mal à reconnaître nos faiblesses. C'est pas quelque chose de facile. Perdre pour gagner, c'est bien de le dire. Mais le mieux, c'est encore de le vivre. Et c'est pas évident à vivre. De lâcher des choses à Dieu. D'accepter qu'effectivement, on n'est pas capable. On vit effectivement dans nos vies, même dans nos églises, où on entend dire on est fort en Christ, on est fort, ça va aller, t'inquiète pas, tu vas y arriver, mais des fois on s'en sent pas capable. On s'en sent pas capable. Alors oui, quand on prie, on dit ce que les autres veulent entendre, on dit ce que Dieu veut entendre. Oui Seigneur, prends tout, je te donne tout, vraiment c'est toi qui me rends capable. Mais c'est pas parce que, effectivement c'est une vérité biblique, le fait que Dieu nous rende capable, mais est-ce qu'on le croit capable de le faire dans nos vies? Est-ce qu'on croit que toutes les vérités bibliques, tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est applicable à nos vies? Ou est-ce qu'on croit qu'on est trop timide, trop basané, trop gros, trop maigre, trop timide, ou, enfin, j'ai déjà dit timide, mais on se demande aussi si on a des caractères particuliers qui nous empêchent, qui nous amputent. Au lieu de passer toutes nos vies comme des amputés, des éclopés spirituels, pourquoi ne pas directement demander à Dieu de nous reconstruire? De reconstruire une confiance, de reconstruire des traits de caractère, de reconstruire des choses qui nous manquent, certes, et qui sont nécessaires pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi ne pas demander, au lieu d'essayer de faire sans, à Dieu de nous pourvoir de ces choses-là? L'encouragement de Paul. Paul nous encourage effectivement dans 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. On le disait, je le disais dès le début, le verset de référence, c'est effectivement 1 Corinthiens 1:27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ceci en est un exemple. Effectivement. C'est quand on accepte d'être faible qu'on accepte surtout que Dieu s'occupe de nous fortifier. N'allons pas nous fortifier dans des choses qui ne sont pas de lui. On va repartir encore plus faible. Vous savez, c'est un peu l'apport de sucre. Dans nos vies, on est un peu comme ça. On cherche toujours des apports de sucre, des apports d'énergie. Et au final, c'est encore pire. Souvent, quand on se sent faible, on demande à un ami de nous aimer, à un ami de nous aider, à un ami de un collègue aussi, quelquefois, de nous aider. Et en troisième position seulement, quand aucun collègue n'a pu nous aider, aucune personne dans notre entourage n'a pu nous aider, alors là, on se met à genoux et on demande à Dieu. C'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Selon 2 Corinthiens 12:9, quand je suis faible, je suis fort. C'est une vérité biblique, mais est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on dit, bon Seigneur, je viens, je te dis que tu peux tout dans ma vie, que c'est grâce à toi que je fais tout, mais quand même ça va, je gère. Je le gère et il y a certains domaines dans nos vies, quand on rentre, on sait bien que c'est de nous. Quand on fait les choses, on les fait souvent pour nous. On les fait souvent pour notre confort. On les fait souvent pour notre propre réputation. Souvent quand on veut pas se mettre en position de faiblesse parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient dire de nous. On veut pas se mettre en position d'être vu comme presque incompétent ou incapable, de peur qu'on se dise qu'on est des enfants spirituels, mais vraiment des petits-enfants. Or, un des conseils principaux de Jésus, c'est soyez comme des petits-enfants. Acceptez de reconnaître nos besoins. Enfin, c'est ça le plus important. C'est accepter que sans Christ, on n'est rien, mais l'accepter vraiment. Pas simplement le lire et le dire, mais surtout le croire. Je le disais l'autre fois, il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. On peut croire dans les capacités de Dieu, mais pas se sentir concerné pour ce qui est de nos vies. Et puis on peut croire Dieu. On croit que s'il l'a fait avant, il le fera maintenant. Amen. Amen. La Bible est remplie de cette vérité qui nous montre que Dieu se manifeste souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans notre extrême faiblesse. C'est pas qu'il le fasse exprès, c'est pas pour nous montrer qu'on est des bons à rien, c'est pas pour qu'on puisse se complaire dans cette espèce de culpabilité, c'est parce que cette extrême faiblesse lui importe plus que nos pseudo-capacités ou nos pseudo-compétences. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on se tourne vers lui dans nos faiblesses, qu'on accepte qu'il nous aide. Pas simplement parce qu'on est des bons à rien, mais parce que c'est lui qui peut tout. Et c'est vraiment pour ne pas qu'on s'enorgueillisse. C'est vraiment pour ne pas qu'on laisse place à des sentiments de fierté. L'autre fois, je lisais effectivement le fait que la multiplication des pains, vous connaissez cette histoire. Et je me suis effectivement fait rire quand je me suis dit, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, quand ça s'est passé, Jésus est parti de son côté et puis il a continué. La plupart d'entre nous, si on avait multiplié des pains et qu'on avait nourri 5000 personnes, ça aurait fini sur Facebook. Sur nos comptes personnels. Pas sur le compte Jésus, non. Sur nos comptes personnels, on avait marqué qu'effectivement, on a nourri 500 personnes, enfin 5000 personnes. Grâce à Dieu, on aurait mis ça en dernier, je crois. J'ai nourri 5000 personnes grâce à Dieu. Mais j'ai nourri. La phrase, ça commence par j'ai. Effectivement, c'est afin qu'on prenne pas trop de place dans l'œuvre de Dieu, que Dieu nous veut faibles et qu'il veut qu'on sache qu'on est faible. Qu'on est faible sans lui. Parce que nous, on sait très bien qu'au travers, si on écoute nos travers, si on écoute ce qu'on est, si on écoute la chair, on sait très bien comment on va se conduire. On le sait. Et pourtant, on le fait. Amen. Nous avons besoin effectivement, au travers de ces quelques exemples de relations de la faiblesse, de ce besoin d'aide et le fait que faiblesse ne veut pas forcément demander de l'aide. C'est ça le plus difficile. On peut se sentir faible, mais on veut pas demander de l'aide. On préfère ne pas venir à l'église pendant un petit moment plutôt que d'appeler quelqu'un et de dire ça va pas. Ça c'est pas normal. On ne devrait pas le faire. Et pourtant, on le fait. Souvent, effectivement, admettre ses faiblesses, le pas d'après, c'est effectivement de demander à Dieu de nous aider. C'est de reconnaître que c'est par lui qu'on peut faire les choses. Pas parce qu'on est des bons à rien. Pas parce que quelqu'un d'autre pourrait nous aider. Mais parce qu'on veut que ce soit lui. On croit. C'est ça aussi, avoir la foi. Et quand on est dans une situation de faiblesse, c'est ça aussi apprendre à rebâtir sa foi. Demander à Dieu de rebâtir notre foi. Rebâtir notre confiance en lui. Détruire notre confiance en nous, pas dans le mauvais sens du terme. On veut pas avoir une forêt de gens qui regardent leurs chaussures en ayant des complexes. C'est pas de ça dont il est question ce matin. Pas du tout. Mais souvent, on se fait un peu trop confiance. Quand on organise une, Marc le disait, quand on organise une réunion, quand on organise un événement, on le fait avec nos capacités à nous, nos capacités managériales, nos capacités relationnelles, notre réseau. La première chose que j'ouvre, moi, quand je fais une réunion, c'est mon agenda. C'est mon calepin. C'est mes contacts. Ok, il faut que j'appelle lui pour faire ceci, pour faire cela. Après seulement, Seigneur, fais que tout se passe bien. Est-ce qu'il y avait besoin d'une réunion? Hein, on sait très bien qu'en France, on est atteint de réunionite. On fait des réunions pour tout. Dans les églises aussi, quelquefois, on peut être atteint de réunionite. Mais ça, c'est encore autre chose. On va prendre l'exemple de Moïse. Exode 2, 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi ce verset? Dans le contexte, plusieurs dizaines d'années ont été nécessaires pour que le peuple s'accroisse numériquement en Égypte. Et ça, c'était une bénédiction. Mais ce temps a été aussi nécessaire pour leur affaiblissement. Ils étaient maintenant esclaves du pouvoir égyptien, si vous lisez le contexte, hein, sans force et sans moyens. Sans armée et donc sans possibilité de révolte. Ils étaient esclaves. C'est aussi par un homme, Moïse, sans moyens, sans armée, que Dieu va délivrer son peuple sur la seule base de l'alliance dont il se souvient. Moïse sans Dieu, il ne se passe rien. La preuve, c'est qu'il a essayé, il a tué un Égyptien, et ça s'est retourné contre lui. Moïse sans Dieu, il ne se passe rien, encore une fois. Il n'a pas d'armée. Il est même pas. Enfin, pour certains, il est regardé de travers. C'est qui lui? C'est qui lui? Et quelquefois, même dans nos vies à nous, on peut se lever, ça peut être au travail, ça peut être dans nos églises, et certains peuvent nous regarder en disant, mais c'est qui lui? C'est qui elle? D'où l'importance de s'appuyer sur Dieu. D'où l'importance de dire, quand je parle de faiblesse, je parle aussi d'orgueil et de fierté. Vous savez, ces moments où on se dit, ben, c'est pas grave, quelqu'un passe devant vous, mais devant vous, hein. Il peut pas vous rater. Et il vous salue pas. C'est pas grave. Si, c'est grave. Mais vous vous dites, c'est pas grave. Quelqu'un critique ce que vous faites, la manière dont vous élevez vos enfants, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous tenez, et vous vous dites, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que même si vous l'admettez pas, ça vous touche. Et au lieu d'en parler, au lieu d'avoir la faiblesse de dire, écoute, tu sais, ça m'a vexé. Alors, j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité dans ce que tu as dit ou dans ce que tu as pensé, mais voilà, je voulais que tu le saches, ça m'a vexé. Ça, c'est admettre sa faiblesse. C'est pas se dire, ah, je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ça. Spirituellement, souvent, on peut se retrouver amputé. Hein. Spirituellement, on rentre dans un ministère, on rentre dans une assemblée, effectivement, on vit des drames. On est coupé à droite et à gauche. Et des fois, il nous manque un bras spirituellement. Et on se tourne vers un service, on a besoin que de nos jambes. On se dit, ça se verra pas. S'il me manque un bras, c'est pas grave. De toute façon, dans ce service-là, j'ai besoin que de mes jambes. C'est pas bien utile. Sauf qu'un jour, on aura besoin de nos bras. Et il nous en manquera un. Et on va faire que la moitié des choses parce qu'il va nous manquer un bras. On n'aura pas demandé à Dieu de le rebâtir. On n'aura pas demandé à Dieu de rebâtir ce qui nous manquait. Et du coup, ça va nous manquer encore. Donc, on va multiplier les efforts pour faire semblant que ça ne nous manque pas. Et c'est là que ça n'ira pas. Est-ce qu'on peut imaginer cet homme, Moïse, à la langue embarrassée, bégayait certainement, avec un cheveu sur la langue, s'adresser au peuple et ensuite au grand pharaon, habitué à recevoir des gens éloquents? Tout est faiblesse, et c'est au travers de cette faiblesse que Dieu va manifester sa force. Est-ce que vous imaginez, vous, un bègue, s'adresser même, ne serait-ce qu'à la République? Il faudrait une sacrée... Genre, il a vachement confiance en lui. Non, là, pour le coup, il avait vachement confiance en Dieu. Amen. Gédéon, un autre exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure. Gédéon lui dit, donc Juge, chapitre 6, verset 15 à 16. Juge, chapitre 6, verset 15 à 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il faut voir qu'à l'époque, dans les juges, hein, pour ceux qui les ont lus, je pense que la plupart, il y a toujours ce cycle de bénédiction, de désobéissance, de pas de malédiction, mais de moments de problème, de déclin, on va dire, et ensuite de retour à Dieu, de cri, de retour à Dieu, et ensuite de nouveau de bénédiction. La première chose que voit Gédéon, c'est pas que Dieu peut l'aider, c'est que sa famille est la plus pauvre en Manassé, et que c'est le plus petit de sa maison. Et quelquefois, quand Dieu nous demande quelque chose, la première chose qu'on voit, c'est notre situation à nous. Pas ce que Dieu veut faire. Et comme on ne voit que notre propre situation, on la voit avec nos yeux, on la voit avec nos faiblesses et nos forces. Et c'est souvent ce qui nous empêche de faire les choses. Parce qu'on se dit, non, je ne sais pas, moi, si ma femme pourra vous le confirmer, j'ai du mal à m'organiser. C'est-à-dire que je suis très, très... Je m'organise, enfin, j'ai mon système d'organisation, mon système de rangement. Mais il m'est propre, ça c'est clair. Et si Dieu me demandait d'organiser une grande réunion, j'aurais un problème. Je me disais, si ça tient qu'à moi, je le ferai pas ou je le ferai mal. Seigneur, aide-moi, parce que si ça tient qu'à moi, ceux qui me voient un jour, je dis, ok, je me lève, allez, moi j'organise, vous saurez que c'est pas moi qui le fais, c'est grâce à Dieu. Hein, parce que franchement, si ça se passe bien, ce sera vraiment grâce à Dieu, pas vraiment grâce à moi. Retour là-dessus, effectivement, on peut voir avec nos yeux et refuser notre faiblesse, dire voilà, moi je suis faible, oui, je suis le plus petit, oui, mais utilise-moi quand même. Comme disait Esaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, avec mes défauts, avec mes faiblesses, mais envoie-moi. Comme disait tout à l'heure Olivier, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir de problème. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir de faiblesses. On les a, nos faiblesses. Mais si on n'en est pas conscient, ça va nous apporter des problèmes. On va passer nos vies comme des éclopés spirituels, à essayer de tendre vers un but dont on croit qu'à moitié. On va essayer de tendre vers un but dont on sait pertinemment qu'on n'y croit pas vraiment. Et ça va se voir dans notre foi. Ça va se voir dans la manière dont on va faire les choses. On le sait, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas vraiment. Gédéon. Effectivement, cette période, c'était celle où Israël était, malgré les promesses, privé de presque tout dans le pays. Madian, Abimelech, je crois, et les tribus d'Orient venaient et massacraient Israël. Une fois qu'ils étaient venus, ils étaient obligés de se cacher dans des trous dans la montagne. Ils leur laissaient aucun bétail, aucun vivre, aucune manière de subsister. À chaque fois, ils les fracassaient. Vraiment. Lisez l'histoire dans Justice, vous verrez que c'était vraiment une situation particulière. C'est cette faiblesse extrême et ce manque de tout qui les a fait se tourner de nouveau, vers l'Éternel, comme nous disait Jean-Philippe, revenez à moi. Parce que souvent, le manque de tout révèle le besoin de Dieu. Quand on a tout dans nos vies, quand on a tout le confort qu'il nous faut, on ne se tourne que rarement vers Dieu. C'est quand il commence à nous manquer des choses, on dit, ah, Seigneur, j'ai pas ça. Seigneur, j'ai pas ça. Seigneur, j'ai pas ça. Seigneur, il me faudrait ça. Et il me le faudrait comme ça. Souvent, quand il nous manque tout, on se tourne vers Dieu. C'est le manque de tout qui révèle notre besoin de Dieu. Pas comme une dernière chance, mais parce qu'on admet qu'effectivement, il est tout. Il est celui qui est. Il le dit, je suis celui qui suis. Il est la définition même du verbe être. Amen. Amen. C'est l'intervention de Dieu qui nous rend fort. C'est pas Dieu qui nous rend tellement capable et tellement compétent qu'on est intrinsèquement fort sans son intervention. Certains pensent qu'ils sont forts par naissance. C'est sans doute vrai quand je vois certaines forces de la nature. Mais sans la présence de Dieu, ta force ne sert à rien. Sans la présence de Dieu, tes compétences ne servent à rien. David, effectivement, la situation, j'ai choisi plutôt que de voir à chaque fois l'arbalète, etc. Enfin, pas l'arbalète, l'outil, on va dire. J'ai choisi de m'intéresser effectivement aux Philistins. Dans 1 Samuel 17:8, Goliath, le Philistin donc, s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël. 1 Samuel, chapitre 17 et verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous rangées en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Quelquefois, on peut se sentir tellement faible, tellement inutile, tellement incompétent et tellement incapable qu'on n'ose même pas se montrer. Ou qu'on ose à peine se montrer. On peut être face à des situations qui nous débordent, qui nous submergent. Ça peut être des situations qui peuvent être au travail, des situations spirituelles, des situations économiques souvent. Ça nous submerge tellement qu'on se sent petit. Et là, c'est ce qui s'était passé. Je vous rappelle le contexte. Une force terrible est ici déployée face à Israël. Goliath, j'y étais pas, mais de ce que j'ai lu, on pouvait pas le rater. Et il y a des fois des problèmes dans nos vies, on peut pas les rater. Ils sont au milieu et on est obligé de passer par là. Si on veut faire quelque chose avec Dieu, il faut qu'on règle le problème. Et on passe notre temps à le contourner, à chercher à passer en dessous, au-dessus, à côté, mais on ne règle pas grand-chose. Dans nos vies, on fait comme s'il n'y avait pas le problème, comme si on n'était pas faible. Or, cette faiblesse, elle n'est pas faite pour nous culpabiliser, elle est faite pour nous révéler. Elle est faite pour révéler le détail de Dieu dans nos vies. Et on ne fait que l'esquiver. Et après, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Israël est gouverné par un roi décadent, Saül. C'est lui qui, à chaque fois, il essaye de planter David avec sa lance, alors qu'il fait que jouer de la harpe. Et en perte de vitesse sur le plan de la foi, le roi, c'est la référence. Souvent, dans nos vies, quelquefois même dans nos assemblées, on peut assister à une diminution de la foi. Est-ce qu'on se base sur ce qu'on voit dans nos assemblées ou est-ce qu'on se base sur la relation qu'on a avec Dieu? Est-ce qu'on se dit, bon, si l'assemblée le fait, si le frère le fait, si la sœur le fait, alors pourquoi je ne le ferai pas? Après tout, on a tous le droit d'être faible. Et c'est pas ce trait-là que je veux souligner ce matin. C'est pas s'excuser d'être faible. C'est reconnaître Dieu dans nos faiblesses. C'est différent. C'est largement différent. Israël était tremblant et incapable de relever un tel défi. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur des moments où ils n'avaient pas compris qu'ils étaient faibles. Parce que déjà, de désobéir à Dieu, c'est se couper de la source de capacité et de compétences. Ils n'étaient même pas conscients de ça. Donc du coup, ils étaient amputés. Et ils n'étaient pas capables de relever ce défi-là. Sans doute espéraient-ils que le temps allait arranger les choses. Ils se sont dit, à force d'y aller, il va s'apercevoir que quand même on est là, il va faire un effort, il ne viendra plus. Si vous dites à vos problèmes de ne plus venir, c'est bien. Mais ça ne les empêchera pas d'être là dans vos vies. Hein. C'est bon, à force de ne pas voir le problème dans ma vie, un jour le problème, il va s'en aller tout seul. Ben non, il ne va pas s'en aller tout seul le problème. Tant qu'on ne l'aura pas réglé, tant qu'on ne l'aura pas mis devant Dieu, tant qu'on ne l'aura pas mis à la lumière de Dieu, tant qu'on ne l'aura pas confessé à Dieu, il va rester là le problème. Parce que c'est la condition sine qua non pour que Dieu intervienne. Quand on voit un problème, on dit, quand tout va bien, très peu souvent, ou très peu, à se tourner vers Dieu. C'est quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose dans notre confort spirituel, dans notre confort matériel qui ne va pas, c'est là qu'on s'adresse à Dieu. Et c'est peut-être aussi pour ça que Dieu met des problèmes et des faiblesses dans nos vies. Faut qu'on se dise, bon, comme apparemment il ne fait appel à moi que quand il y a des soucis, je vais mettre des soucis dans sa vie peut-être. Alors j'exagère, hein, je pense pas qu'il réagisse comme ça, mais en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, Dieu nous veut faibles. La faiblesse est éprouvée sans être avouée et confessée. C'est ce qui s'est passé. Elle était vécue. Ils ne pouvaient rien faire. Ils se sont dit, bon, on va continuer à venir sur le champ de bataille, mais on va perdre. On va continuer à faire, mais on va perdre. Et quelquefois, on peut être comme ça dans nos assemblées. On va continuer à venir dans ce service-là, mais bon, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Mais on s'est engagé en septembre, alors bon, continue à y aller. On va peut-être aller dans cette assemblée ou faire telle et telle chose, mais on n'y croit pas vraiment, mais on va continuer. Peut-être qu'en y allant, à force d'y aller, on finira par aimer ce qu'on fait. Et c'était cette attitude-là. Ils disaient que peut-être que, à force, ça finirait par aller. Et dans nos vies, on se dit un peu ça. Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, Seigneur, permets que ça aille. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrange les choses. Rebâtis, reconstruis. Réécris certains détails de ma vie. Effectivement, Israël était tremblant et incapable de relever un tel défi. Ils espéraient qu'avec le temps, le temps allait arranger les choses. Comme pour Moïse, le salut est venu d'un jeune homme, pour ne pas dire un enfant. Il était ni grand, ni fort. Et dans cette situation, il était plutôt mignon apparemment. Pas pour moi, hein, pour lui surtout. Sa beauté plaide plutôt en sa défaveur. Il était mignon. Ça veut dire, ah, il est mignon. David, apparemment, il était mignon. Il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'ossature, il ressemblait à rien. C'était un berger, les cheveux hirsutes. Quand vous gardez les animaux, vous sentez le fauve, hein, clairement. Je pense que c'était son cas. Faute de mieux. Saül lui a dit, bon, vas-y, fais semblant de lui mettre son armure, mais non, ça ne lui allait pas, l'armure. Il l'a laissé partir au combat, sans doute. Il s'est dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais l'envoyer lui. Et pourtant, c'est sa confiance en Dieu et sa foi qui finirent par terrasser l'ennemi. C'est pas lui, c'est pas les capacités, c'est pas les compétences, c'est sa dépendance à Dieu. Et il le confesse. Quand j'étais dans les champs et qu'un loup ou un fauve s'attaquait au berger, j'y allais et je le secouais. Pas parce que c'était un téméraire, parce qu'il savait que c'était le troupeau de l'Éternel. Il savait que Dieu pouvait intervenir dans sa vie. Et à chaque fois, il s'en remettait à Dieu. Il y avait des lions, il y avait tout un tas de bêtes féroces. S'il s'en était remis qu'à lui-même, je pense qu'il n'y serait même pas allé. Et des fois, quand on regarde certaines positions dans nos vies, certaines choses dans nos vies, on s'est dit, on remercie Dieu qui nous éclaire au niveau des pieds, parce que s'il nous mettait trop de lumière, trop loin, je ne sais pas si on irait quelquefois. Je pense pas, non. Autre chose, le fils prodigue. Un exemple, hein, du retour à Dieu. Luc 15, 20, vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce sont presque les mêmes mots lorsqu'il le vit, ému de compassion, que l'autre exemple du bon samaritain. Bien que la situation ici soit différente, il est question d'un fils qui revient dans un grand dénuement, après avoir dilapidé la fortune de son père. Combien de fois on revient à Dieu après avoir tout essayé? On se dit qu'on ferait peut-être mieux que quelquefois, dans nos vies, on peut imaginer Dieu comme un problème, parce que quelquefois, si t'as besoin de Dieu, c'est que t'es faible. Si t'as besoin de t'en remettre à quelqu'un d'autre que toi-même, c'est que t'es pas super fort, et que du coup, est-ce qu'on va vraiment devoir te faire confiance? On peut vouloir faire sa vie sans Dieu. Une fois qu'on s'est aperçu que c'était pas la bonne chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient? Et quand on revient, quelle attitude on adopte? Parce que les gens savent qu'on est parti. Les gens savent pourquoi on est parti. Les gens savent bien souvent, parce que l'Église, même si on se le dit pas, hein, mais c'est une grande famille, donc les cancans circulent beaucoup plus vite que les bénédictions quelquefois. Hein? On ne sait pas comment va la sœur, mais on sait qu'elle vient pas. On sait que ceci, ou on ne sait pas comment va le frère, mais on sait qu'il vient pas. On sait que, bref, souvent, hein, on est bien renseigné quand même. Facebook nous y aide, il faut dire. Mais c'est cette attitude du fils. Il avait le choix. Il aurait pu rester avec les pourceaux. Il aurait pu se complaire dans cette faiblesse, s'apitoyer dans cette faiblesse et mourir. Non. Il a reconnu sa faiblesse. Sa faiblesse et son dénuement sont tels que son père n'a pas hésité à employer cette expression « Mon fils que voici était mort ». Et c'est pour ça qu'on dit qu'en Christ on a la vie. C'est parce que sans Christ, forcément, on est mort. Il n'y a rien qui se passe. Quand on dit souvent, comme disent les jeunes, « C'est mort ». Ouais, c'est mort. Sans Dieu, c'est mort. Nos capacités sans Dieu, c'est mort. Nos compétences sans Dieu, c'est mort. Accepter nos faiblesses, ça c'est la vie. Accepter que Christ prenne sa place dans nos vies. Et accepter qu'on arrête de prendre la place de Christ dans notre propre vie. Parce que quelquefois on veut utiliser on veut être omnipotent, on veut comme dans une équipe de foot, utiliser tous les postes. On veut être à tous les postes. On veut s'occuper de tout. C'est pas possible. À un moment donné, on va prendre la place de Dieu. Le bon samaritain, vous connaissez tous l'histoire, hein, un samaritain qui voyageait il est venu au secours effectivement de quelqu'un qui avait été maltraité par des voleurs, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est un exemple effectivement de Christ avant l'heure, un exemple. Le principe fondamental est le même. Un homme impuissant et inconscient au sol, il est côtoyé par des gens qui n'ont aucune volonté de l'aider. Des fois ça passe. Quand un frère ou une sœur ne vient plus, on préfère dire « bah il vient plus ». Pourquoi il vient plus? Parce qu'il a plus envie de venir. C'est pas toujours aussi simple. Est-ce qu'on va être comme tous ces gens qui sont passés à côté de cet homme au sol, blessé, meurtri, sans jamais les aider? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il est côtoyé d'avoir des gens qui n'ont aucune volonté de l'aider. C'est là, dans cette grande faiblesse, dans ce grand dénuement, que s'arrête le bon samaritain. Pour certains, Aider quelqu'un comme ça, c'est que des ennuis et de l'embarras en perspective. Et c'est vrai que, quelquefois, ça peut être des ennuis, quand on va bien, d'aller voir des gens qui ne vont pas et de toujours aller voir des gens qui ne vont pas. Bien, je veux dire. Ça peut être fatigant. On peut considérer ça comme quelque chose de fatigant, comme quelque chose d'embarrassant. Tu vas au bas, je vais voir la personne là, elle ne va pas bien. Ah, mais elle ne peut pas le faire toute seule, elle ne peut pas aller bien toute seule. Bah non, elle ne peut pas aller bien toute seule. Parce que nous, quand on ne va pas bien, on ne va pas de nouveau bien tout seul. Amen. C'est un exemple, effectivement, de Christ, parce qu'il n'y a rien à donner dans une telle situation. En fait, il n'y a rien à prendre dans une telle situation, tout est à donner. Il a même payé pour ses soins et il a demandé à la personne dont tu as laissé la charge, dire, je reviens et si ça t'a coûté plus, je paye encore. C'est en ça que Christ a... Voilà, c'est un exemple pour moi de Christ, ce bon samaritain. Le brigand crucifié. J'ai longtemps pas compris cette histoire du brigand crucifié. Donc je m'y suis penché, j'ai étudié, j'ai gratté. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus faible qu'un mourant? Il y a la réponse dans la question, mourant. Ça, il va pas passer la journée. Un mourant en plus, exsangue, épuisé par des heures de crucifixion, que pourrait-il donner à Dieu? Qu'est-ce qu'il va pouvoir donner à Dieu? Il est mourant, épuisé par la crucifixion. Cet homme va rendre son dernier soupir, on va certainement lui briser les jambes pour s'assurer qu'il est bien mort, en plus. C'est le principe de la crucifixion. C'est dans le plus complet dénuement physique et spirituel qu'il s'adresse à Jésus. Il sait qu'il il va mourir. Et ce n'est pas parce qu'il va mourir qu'il prend ça comme une planche de salut. Là, il n'y a rien. Il ne mérite pas le salut. Il le sait. Il sait qu'il ne mérite pas le salut. Il sait que de lui-même, les choses sont réglées. Et c'est de Jésus qu'il reçoit cette assurance. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce qu'il a su reconnaître son besoin de Dieu. Pas simplement son besoin d'aller mieux, pas simplement son besoin d'être repris ou reconstruit, non, simplement son besoin de Dieu. Quand tu seras avec ton Père, pense à moi. Sans savoir que si Christ était là, c'est parce qu'il avait déjà pensé à lui. Amen. Quelquefois, quand tout semble perdu, quand tout, on se dit, mais j'ai rien fait de ma vie, j'ai peut-être pas fait d'études, j'ai du mal à m'en sortir, j'ai du mal à trouver une situation stable, je vois pas où je vais, je viens, il n'y a rien qui se passe, j'essaye plein de trucs, il n'y a rien qui se passe. On peut se décourager, on peut céder à la facilité, on peut céder à nos faiblesses. C'est pas la bonne solution, encore une fois. Sa faiblesse, effectivement, à ce brigand, a été compris et accepté comme le plus précieux des gains. C'est ça que Dieu recherche dans nos vies. La faiblesse, le fait qu'on soit faible et qu'on lui remette nos faiblesses. Pourquoi donc Dieu est attiré par nos faiblesses? Premièrement, parce que ça lui permet d'exprimer la plénitude de son amour. Jean 15, 13. Jean chapitre 15 et verset 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et nous sommes les amis de Christ. Amen. Alors, si on a l'habitude, avant de demander à Dieu, d'aller voir nos amis, prenons cette facette de Christ comme étant notre ami. Amen. Deuxièmement, cela lui permet d'exprimer nos faiblesses, la plénitude de sa puissance. Exode, chapitre 9 et verset 16 nous dit « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. » Il a laissé. Quelquefois, il nous laisse faire. Vas-y, fais, galère un peu, galère. Et quand on aura marre de galérer, peut-être que tu vas tourner vers moi. Ouais. Troisième chose, ça lui permet d'exprimer toute la plénitude de sa grâce. Toute la plénitude de sa grâce. On ne mérite rien par nos œuvres. Donc arrêtons de chercher à mériter ce qui nous arrive. Arrêtons de chercher à mériter la réussite, à mériter les succès. Si les succès viennent, alors ils viennent, mais qu'ils nous servent à quelque chose. C'est à avouer qu'effectivement, sans Christ, on n'aurait pas le succès. Arrêtons de vouloir à chaque fois mériter les choses. Le principe même de l'amour de Dieu, c'est la grâce. Amen. Et c'est ce qui nous différencie de toutes les fables spirituelles qu'on peut entendre. C'est ça, c'est la grâce. Pas besoin de faire telle et telle chose pour que Dieu t'aime. Il t'aimait déjà et il t'a aimé le premier. On n'a pas à mériter son amour, on ne le mérite pas. Donc arrêtons de vouloir mériter son amour. 2 Corinthiens 12, 9, c'est la suite du verset de tout à l'heure, pas du début. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On voit donc qu'on a deux cas de figure avec la faiblesse. Ce qu'on ne doit pas faire avec. Le premier, c'est la garder. Vivre avec, tant bien que mal, et la laisser nous paralyser. J'y arriverai pas. Je suis trop faible. C'est pas pour moi. Les gens me connaissent. J'ai pas bonne réputation. J'y arriverai pas encore une fois. Je suis trop fort pour, enfin, je suis pas assez fort pour pardonner. Je suis pas assez fort pour demander à Dieu. C'est pas dans ma culture. Ça, je l'entends souvent. C'est pas dans ma culture. Bah, change de culture. Dieu a dit qu'il voulait nous renouveler en tout. Souvent, on fait appel à Dieu pour des réparations. On devrait faire appel à Dieu pour la reconstruction. Amen. On change les normes. On oublie souvent qu'on ne s'appartient plus. On appartient à Christ. Il a payé le prix. Arrêtons de... souvent, je parle de voitures, j'aime bien les voitures, comme apparemment pas mal d'hommes. Et si je vends ma voiture à quelqu'un, j'ai plus le droit de faire ce que je veux avec. J'ai plus le droit d'aller le voir et lui dire non, non, faut pas que tu fasses ça avec, hein. Non, non, faut pas que tu gardes la voiture comme ça, là. Non, 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 faut pas que tu conduises comme ça. Non, 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 ne va pas là avec elle. Hein. Ne fais pas comme ça, ne fais. Qui a acheté la voiture? On arrête donc du coup. Tu n'as pas à me dire, on n'a pas à dire à Dieu ce qu'on veut qu'il fasse dans nos vies. On est bien d'accord. On n'a pas à dire à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse dans nos vies. Par contre, nous, on a à demander à Dieu dans ce sens-là. Mais ça ne nous dédouane pas de tout. Amen. Il ne faut pas non plus chercher à les ignorer, nos faiblesses. Parce qu'en faisant semblant de ne pas l'être, si j'ai une jambe cassée et que je fais semblant qu'elle ne soit pas cassée, ça ne va pas empêcher que j'aurai du mal à marcher. Et qu'au bout d'un moment, je vais finir par me blesser encore plus gravement. Parce que souvent, de faiblesse en faiblesse, on devient de plus en plus faible. Parce qu'on n'attaque pas certaines choses avec déjà des faiblesses en amont. Si j'ai la jambe cassée et que je continue à m'appuyer dessus, je vais me blesser encore plus. Ça va aller encore pire. Et au début, un petit problème va devenir un gros problème. Parce que j'aurais fait semblant de ne pas voir qu'il y avait un problème. Un petit... ce fameux « c'est pas grave, il ne m'a pas dit bonjour, c'est pas grave ». Ça va se tourner à « il me dit rarement bonjour ». Et après, il me dit jamais bonjour. Et après, mais où est sa foi? Il dit bonjour à personne. Alors que ça aurait été plus simple d'aller voir cette personne-là dès le début. Ce petit pardon. Oui, je peux pardonner qu'on passe devant moi dans le RER. Mais par contre, je ne peux pas pardonner parce que un tel a fait telle chose dans mon église et j'estime que dans l'église, on doit être droit, on doit être juste et on doit être dans la victoire. Et toi, en le disant, t'es droit, t'es juste et t'es dans la victoire, tu crois? Ah non, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Avec nos faiblesses, on ne doit pas s'en plaindre sans cesse et y trouver notre compte dans un apitoiement permanent. Parce que souvent, c'est un peu... Non, 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 ça, non, non. J'ai déjà essayé, hein. Non, 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 ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas. L'histoire des paralytiques, il y a des fois, on veut pas être guéri parce qu'on est bien dans la maladie. Les gens viennent nous voir, les gens prennent de nos nouvelles, on se sent important. Eh oui, c'est un peu comme ça. On s'apitoie dans nos faiblesses. Oh là là. Alors comment ça va? Oh, ça va doucement. Toujours, hein, avec l'aide de Dieu. Mais Dieu en dernier dans la phrase. Avec l'aide de... Ça va doucement, ça va. Ouais, ouais, on fait aller, ça va, oh, ça va. Et, oui, je prie, oui, oh, je prie, oui. Bah, tu sais, j'ai pas toujours la force non plus. Alors bon, je prie pas beaucoup non plus. J'ai du mal. Puis tu sais, ça me rappelle l'autre fois, un tel est venu, il a critiqué un peu. Alors du coup, je suis reparti un peu, ça m'a fait mal. Alors j'ai pas osé lui dire, naturellement. J'ai préféré le dire au voisin, c'était plus simple. Voilà, alors j'exagère, hein, je force le trait, mais quelquefois il peut nous arriver comme ça. Effectivement, des choses à faire avec nos faiblesses, c'est ne pas chercher à les cacher ou les dissimuler sous des apparences de maîtrise ou d'apitoiement. Souvent, quand on se sent faible, on surjoue. Ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va pas, mais ça va. Ça va, ça va. On va faire aller. Ou ça va? Ça va, ça va. Je gère, souvent on dit. Ça va, je gère. Pourrait y avoir mieux, il y a mieux, il y a pire, mais ça va. Ça veut rien dire, ces phrases-là, sérieusement? Il y a pire, il y a mieux, mais ça va. Non, ça va pas vraiment. Ça met, on fait semblant que ça va, ça va, ça va. Ou souvent on s'apitoie, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je vais pas, ça va pas. Voilà, bon, ça c'est pas bon non plus. Dans les deux cas, Non, ça va pas. Prie pour moi, si tu veux. Je galère en ce moment où il y a quelque chose, j'y arrive pas. Donc prie pour moi. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, parce que l'autre fois, ouais, en ce moment, je suis un peu ailleurs. Ah, c'est pour ça que tu m'as pas salvé depuis 14 dimanches. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je t'aime pas. Non, faut pas dire ça. Non, mais l'honnêteté a des limites quand même. Non, acceptons d'être humain, mais pas trop non plus. Hein. Non, c'était une blague, elle était mal sentie, bravo. Pardon. Voilà, deuxièmement, accepter que leur mise au jour permet d'identifier la nécessité de retour à Dieu. Revenez à moi. Quand nos faiblesses sont mises au jour, c'est pour quelque chose. C'est parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui se révèle dans nos vies, c'est parce que Dieu frappe à la porte. Acceptons de lui ouvrir. Parce qu'on peut être dans une difficulté, entendre frapper à la porte et penser que c'est quelqu'un qui vient demander une facture. Alors du coup, on n'ouvre pas. On se dit non, ça c'est encore des problèmes. On n'ouvre pas, c'est des factures, c'est des gens qui vont encore me prendre mon temps parce que ceci, parce qu'ils vont pas bien. Les gens qui vont déjà pas bien, moi déjà je vais pas bien, c'est pas pour aller voir d'autres gens qui vont pas bien. C'est la première chose qu'on se dit. Et on oublie de se dire, ce serait bien que moi j'aille bien. Ce serait bien que moi je fasse en sorte d'aller bien. Voilà. Accepter la mise au jour de nos faiblesses comme une nécessité de retour à Dieu. Troisièmement, accepter qu'elle soit la condition nécessaire au travail de Dieu dans nos vies. Vous avez souvent aidé quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide ou qui confesse qu'il n'a pas besoin d'aide? Moi non. Souvent, genre, ouais, mais quand même, t'aurais dû le savoir. C'est un truc, ça doit être un caractère féminin. T'aurais dû le voir. Oui, non, je ne l'ai pas vu. T'aurais dû le savoir. Non, je ne le savais pas. Mais quand tu t'es dit que je venais pas depuis tant de dimanches, ça t'a pas interpellé? En vérité, non. Mais j'allais pas bien. D'accord? Et tu pensais que j'allais me cogner la tête et le savoir? Oui. Non. Non. Quelquefois, il faut avoir envie d'être aidé. Et si vous dites pas aux gens que vous allez pas bien, si vous demandez pas aux gens la prière, si vous demandez pas un petit moment aux gens, écoute, en ce moment, c'est pas la pêche. Bon, ça va. Mais voilà, prie pour moi parce que je vis ça en ce moment et c'est un peu dur. Je suis dans cette difficulté-là. J'ai ça comme projet. J'aimerais de l'appui spirituel. Prie pour moi parce que je sens que ça va être une décision importante. Je t'en dis pas plus ou j'aimerais prendre du temps avec toi pour t'en dire plus. Mais voilà, n'ayons pas peur. On fait partie les uns des autres. La Bible dit. N'ayons pas peur de le vivre. Amen. Amen. En effet, Dieu est attiré par la faiblesse. Il ne résiste pas à ceux qui admettent humblement et honnêtement. Honnêtement. Leur détresse. Faut pas prendre Dieu comme une option en plus dans nos vies, mais comme une fonction vitale. Amen. Le seul moyen et le conseil le plus sage, c'est encore de confesser nos faiblesses et de s'attendre au Seigneur dans la foi. Et si on n'a pas la foi, d'attendre, de le reconnaître aussi, dire Seigneur, j'y crois plus. Seigneur, j'y crois plus, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est devenu difficile de venir parce que j'aime de moins en moins les gens. Quelquefois, ça peut arriver. On peut avoir été blessé par un frère, par une sœur, par une situation. On peut avoir des complications avec nos enfants. Et on peut avoir du mal avec Dieu. Parce qu'on peut estimer Dieu comme étant responsable de ça. Il l'a permis, alors, et on ne s'aperçoit pas qu'effectivement, déjà là c'est signal d'alarme. Ça sonne de partout, feu de détresse, etc. Et on n'a pas pris conscience de ça. Acceptons aussi d'être faible. Et surtout, acceptons que Dieu vienne combler ses faiblesses. Amen. 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 Prions. Seigneur Jésus, merci parce que nous savons que tu es venu effectivement pour enlever tout, Seigneur. Tu es venu vraiment victorieux dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de la vie en général. Il n'y a rien qui te soit il n'y a rien qui se passe qui ne te soit connu et déjà vécu. Merci parce que tu nous assistes. Merci parce que tu te veux fidèle quand nous ne le sommes pas. Merci parce que tu continues d'être présent quand nous sommes, malgré notre présence dans l'église, quelquefois un peu absent. Je te demande vraiment de bénir chacun, Seigneur, d'aider chacun à reconnaître ses faiblesses et son besoin de toi dans sa vie, Seigneur. Que tu puisses aider chacun, Seigneur, à poser toutes les cartes de sa vie devant toi, en demandant là où c'est possible et là où Dieu veut nous emmener, de nous aider, Seigneur. Rebâtis nos foies, Père. Rebâtis nos foies sur un modèle que tu veux, toi. Pas sur une foi à la carte, Seigneur. Aide-nous à prendre la vie, non pas comme un parc d'attractions, mais comme un voyage, comme une aventure, Seigneur. Aide-nous à être non pas consentant, mais désireux de vivre avec toi. Aide-nous à ne pas envisager la vie avec toi comme une colocation, Seigneur, mais comme une propriété dont tu est le propriétaire, Père. Aide-nous à faire des vérités bibliques, des vérités bibliques de ce matin et des autres matins, des vérités dans nos vies, Seigneur. Des socles solides sur lesquels on puisse s'appuyer. Des choses dans lesquelles on croit et que tu puisses vraiment nous aider à aller au-delà de ce que l'on pense possible, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.